Radio Kapi. Oh, Kapi.
Béni, en attente du Premier ministre Sama Lukonde ce lundi, c'est sa toute première visite de travail dans cette partie du Nord Kivu depuis sa prise de fonction. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège, indique le député national Kizerbo, élu de Béniville. Pendant ce temps, la plateforme politique Union Sacrée pour la République appelle tous les acteurs sociopolitiques du Nord Kivu à la retenue. Le point focal Patrick Bala appelle à soutenir l'état de siège qui, pour lui, reste le dernier rempart pour la sécurité et la stabilité dans la province. Vous l'entendrez. Et puis, l'invité de ce matin, le général de brigade Hassan Bey, chef adjoint de la police des Nations Unies, UNPOL en RDC, il séjourne à Beni et nous parle notamment de l'appui que UNPOL apporte à la police nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est attendu aujourd'hui à Beni dans le Nord Kivu en provenance de Bunia en Ituri où il a séjourné depuis samedi. Aucune annonce officielle n'a été faite jusque-là. Néanmoins, des messages sur son arrivée ce lundi dans la ville de Beni sont diffusés dans certains médias de la place par quelques députés nationaux présents à Beni. André Kitenge nous décrit l'ambiance dans la ville.
C'est ce lundi 23 août dans la matinée que Jean-Michel Sama Lukonde est attendu à Beni pour sa toute première visite de travail dans cette partie de la province du Nord Kivu depuis sa prise de fonction. Pour l'instant, l'heure est à la mobilisation de la population pour son accueil. À Beniville, une première annonce de mobilisation a été faite ce dimanche matin par le député national Kizerbo Watevia sur les antennes d'une radio locale. Ce député élu de la ville de Beni a indiqué que la visite du Premier ministre s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. Il invite ainsi la population à lui réserver un accueil chaleureux. Pour le moment, les attentes sont nombreuses à Beni. Le président de la coordination urbaine de la société civile dit attendre du chef du gouvernement la solution à l'épineuse question de l'insécurité dans la région causée par les rebelles ADF ainsi que d'autres groupes armés. Mais tout laisse à croire qu'il s'agira également de fixer la population de Beni sur l'opportunité de la prorogation de l'état de siège dans la région, critiquée par une certaine classe politique et certaines organisations de la société civile de la région. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Notez qu'à Bunia, le Premier ministre a tenu une réunion d'évaluation hier avec les représentants des agences humanitaires œuvrant dans la province de l'Ituri, actuellement en état de siège. Cette rencontre à laquelle ont pris part les ministres sectoriels a été une occasion pour les humanitaires de faire part au chef du gouvernement congolais de l'état des lieux de leurs activités ainsi que des différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exécution de leur mission dans le pays. Le compte-rendu de Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis plus d'une décennie que la situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante dans la province de l'Ituri. C'est à la suite des exactions commises par les groupes armés locaux et étrangers qui terrorisent la population dans les territoires des Djougou, Irumu et une partie des Mambasa. Plusieurs familles qui ont fui les atrocités des milices des Codeco, FPIC, des ADF ainsi que des groupuscules des Maïmaï font face actuellement à l'insécurité alimentaire accrue. Cette rencontre a permis d'abord aux humanitaires d'étaler au pied du Premier ministre les différents défis, notamment d'ordre sécuritaire, ce qui ne leur permet pas d'accéder facilement à des zones où les besoins se font sentir. De son côté, le président du caucus des députés nationaux de l'Ituri insiste sur les renforcements de l'effectif des militaires pour sécuriser la population, notamment sur les différents tronçons routiers. Pour Wilson Adirodou, la réussite de l'état de siège dépendra aussi d'un contrôle judicieux au sein de l'armée, que nombreux observateurs estiment être infiltrés par les sujets étrangers. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Restons à Bunia pour signaler le décès de l'ambassadeur de la RDC au Soudan du Sud. René Ilume Tembele est décédé samedi dans une structure sanitaire de Bunia dans des circonstances non encore élucidées. Des sources sanitaires précisent qu'il est décédé après avoir piqué une crise. Son corps est gardé à la morgue de l'hôpital général de référence de Bunia. Pour l'heure, les autorités provinciales n'ont fait aucune communication à ce sujet. Explication Jean-Claude Lokidile.
C'est depuis le lundi et le 9 août dernier qu'il est arrivé en mission officielle à Bunia. dernier où il était logé aux frais du gouverneur provincial dans un hôtel de la place. C'est ce que nous a déclaré un agent de cet hôtel. Si l'objet de cette mission n'est pas connu, du moins pas des officiels contactés par Radio Kapi, certaines sources déclarent qu'il avait un rendez-vous de travail avec le gouverneur de l'Ituri. D'autres sources renseignent que l'ambassadeur de la RDC à Juba devait aussi avoir un tête-à-tête avec le premier ministre Samalou Kondé qui séjournait à Bounia. S'agissant de sa mort, aucune source officielle n'a fait une communication pour l'instant. Des sources proches de l'hôpital où il a rendu l'âme ont indiqué que René Iloumé n'a séjourné dans cette formation médicale que pendant 37 minutes, le temps pour l'équipe médicale de tenter de sauver sa vie. Selon leurs propos, ce diplomate a piqué une crise qui l'a emporté. Et pourtant, souligne une autre source, hier samedi, il aurait fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir le ministre national de la Défense qui venait d'arriver lui aussi à Bounia. Son corps est momentanément gardé à la morgue de l'hôpital général des références de Bounia en attendant la décision de sa famille. Information confirmée par le directeur de cette formation médicale, Bounia Jean-Claude Loki, dit Radio Kapi.
Le coordonnateur adjoint de Kokoluko, ONG congolaise de lutte contre la corruption, demande au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé de révoquer tout membre du gouvernement qui s'écarterait des enseignements du séminaire gouvernemental sur l'éthique et la déontologie. Ceci est contenu dans une déclaration faite devant la presse hier à Kinshasa. Cela suite à une certaine attitude que prennent certains membres du gouvernement d'après André Minsumbu. Il le dit au micro de Paul Matendo Mayamba.
La Kokoluko est très choquée et condamne énergiquement ces comportements indignes. De même, elle dénonce les attitudes rétrogrades et déshumanisantes de tous les autres ministres qui sous-estiment leur vice-ministre. Pour la Kokoluko, un tel comportement ne peut pas favoriser la cohésion et l'efficacité du gouvernement. Fidèle à sa mission d'accompagner les institutions de la République en vue d'aider à l'amélioration de leur gouvernance, la Kokoluko interpelle tous les membres du gouvernement et les appelle à travailler pour le seul bien du pays et de la population dans la cohésion et le respect mutuel. En vue de faire régner la discipline et le respect de l'éthique, la Kokoluko recommande au Premier ministre de proposer la révocation pure et simple du gouvernement de tout ministre, vice-ministre ou membre d'un cabinet ministériel qui s'écarterait des enseignements du séminaire gouvernemental sur l'éthique et le leadership des membres du gouvernement.
Retour au Nord Kivu, je vous le disais en titre, la plateforme politique Union Sacrée pour la République appelle tous les acteurs sociopolitiques de cette province à la retenue. Dans une déclaration politique faite samedi devant la presse, le point focal de cette plateforme invite toutes les filles et tous les fils du Nord Kivu à bannir leurs divergences politiques et les exhorte à regarder dans une seule direction pour soutenir l'état de siège qui reste le dernier rempart, selon lui, pour la sécurité et la stabilité de la province. Au regard de quelques avancées déjà observées dans la ville de Goma et sur l'ensemble du Nord Kivu, Patrick Bala, point focal de l'Union Sacrée pour la République, reconnaît qu'il y a malgré tout des défis à relever. Il le dit au micro de Gabriel Ouamenia.
Contrairement à certains députés qui sont montés au créneau pour demander la fin de siège, pour nous, nous allons dans un sens où nous nous disons, on a tenté plusieurs, il y a eu plusieurs essais qui ont échoué, mais cette fois-ci, la manière dont le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de marcher, nous voyons que ce souci d'éradiquer en tout cas cette insécurité s'est fait sentir. On a mis trop de moyens, vous avez vu, il y a eu des détournements, mais cette fois-ci, on détourne, on est arrêté, la justice aussi est en train de faire son travail sérieusement. Nous pensons que dans ce sens, on peut atteindre la paix. Je pense qu'on doit avoir un seul langage. Le langage que nous devons avoir, c'est celui d'avoir la paix, qu'on puisse instaurer la stabilité, la sécurité, c'est tout ce que nous sommes en train de chercher. Imaginez-vous à cet état qu'on arrête l'état de siège. Qu'est-ce qui adviendrait? C'est dire c'est le chaos. C'est dire en ce moment-là, les groupes rebelles vont défier l'armée. L'armée sera déconsidérée, on sera considéré comme défaillante.
Et comment vous les croyez?
Non, parce que pour nous, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout. Nos députés qui ont fait 2 ans sans produire même un édit aujourd'hui, sont-ils capables d'aller juger ceux-là qui ont fait 2 mois? Il faut être un exemple pour demander des comptes aux autres. Ils ne sont même pas un exemple.
Rappelons que depuis l'instauration de l'état de siège, le taux de criminalité ainsi que des cas de kidnapping ont légèrement baissé dans la ville de Goma et dans quelques agglomérations de la province du Nord Kivu. Nord Kivu toujours, la coopérative des dépositaires des produits vivriers, Codeprovi en sigle, dénonce ce qu'elle qualifie des nouvelles taxes illégales instaurées dans le territoire de Lubero par certains services étatiques depuis l'état de siège. Outre ces nouvelles taxes, cette structure indique que d'autres taxes reconnues ont tout simplement été revues à la hausse sans aucune justification, indique des sources sur place. Katembo Kasai, président de la Codeprovi, l'a fait savoir ce week-end à Radio Kapi. Il a appelle les autorités compétentes à mettre fin à cette pratique qui, selon lui, asphyxie les transporteurs des produits vivriers. Katembo Kasai, au micro de Florida Kahambu.
Les taxes qu'on a ajoutées, il y a la taxe surchargement, $15, et il y a une nouvelle également qu'on appelle taxe surstationnement à $5. Il y avait des taxes que nous avons négociées, mais aujourd'hui, compte tenu de l'état de siège, ils ont dit hausser. Par exemple, la Saint-Père, c'est toujours à $2 au niveau de Butembo, mais au niveau de Lubero, c'est revenu à $5. La DGNRK, nous étions à 40 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 50 000 francs. Il y a tous les services. On appelle ça la taxe de sécurité. Nous étions à 5 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 6 000 francs. Une autre taxe, c'est la taxe de la PCR. La PCR Butembo, Ndiapanda, c'est 5 000 francs. La PCR Lubero, à l'aller, 7 000 francs. Au retour, la PCR Lubero fait payer 17 000 francs. La taxe est baptisée rapport routier. Il faut que vraiment notre gouvernement intervienne à temps opportun pour que nous puissions trouver une solution qui peut nous satisfaire nous tous.
Nous n'avons pas pu avoir la réaction des services cités dans cette affaire. Autre nouvelle, une semaine nous sépare de l'organisation de l'examen d'État édition 2020-2021 au Maniema. Pendant ce temps, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 attire l'attention des chefs d'établissement, les chefs des centres et tous les candidats finalistes pour un bon aboutissement de ces épreuves. Ntumbanda Inestor souhaite avoir des bons résultats, les diplômes d'État mérités par les élèves, dit-il. Nestor Ntumbanda s'est confié à Florence Kizalunga.
L'examen d'État, ce n'est pas de la panique. Ce sont des examens composés par des vrais psychopédagogues qui connaissent bien le programme, le niveau de nos élèves. Donc il n'y a pas à paniquer. Je demande à mes élèves de bien se préparer, de bien revoir le programme de cours et d'éviter surtout d'aller dans le maquis. N'organisez pas le maquis. Le maquis, il n'y a rien de bon là-bas. Ce sont des fainéants qui vont pour manger, danser et déranger les intelligents. C'est surtout les gens qui faisaient l'école buissonnière qui préfèrent aller au maquis pendant ces 7-8 jours qui nous séparent de la session. Ah, mes chefs d'établissement, attention, nous apprenons par-ci par-là qu'il y a les chefs d'établissement qui tracassent les élèves pour leur dire, si vous voulez avoir beaucoup de points dans le E13, donnez 100 000, donnez 200 000, on vous surprend, en tout cas vous perdez votre poste. À vous, chef des centres et toute votre commission de passation, les bruits courent qu'il y a les écoles où les préfets trompent les enfants pour cotiser l'argent à remettre aux chefs des centres quand ils seront là-bas pour favoriser la fraude massive. Si on apprend qu'il y a eu fraude, seule solution, vous perdez d'abord votre poste d'inspecteur et puis on annule l'examen, on va recommencer après.
Direction la province du Tanganyika. La brigade des FARDC a procédé samedi à une opération de bouclage à Kalemie. En effet, une bande de voleurs non identifiés a visité la nuit de vendredi dernier 15 maisons du quartier Moni de la cité de Simfo. Nous sommes sur la rive droite de la rivière Lukuga dans la ville de Kalemie. Les biens de ces maisons ont été emportés. Une dizaine de suspects ont été placés en détention provisoire à la brigade des FARDC. Tous les services de sécurité ont participé à ce bouclage. Le porte-parole des FARDC au Tanganyika explique ici ce qui a motivé cette opération. Le capitaine Kaloumé Fazili Moïse Carlos est au micro de François-Xavier Mibé.
Il y a au moins 15 maisons visitées par les bandits. À l'issue de cette visite de la population, le commandant place, le général Mouima Dédoné, a proposé un bouclage qui a donné quand même des effets positifs. Parce qu'il y a eu certains effets militaires qui étaient attrapés dans deux maisons et on a arrêté certaines personnes là-bas. Parce que vous savez, depuis qu'il est arrivé à Kalemie, on a constaté une accalmie pendant un temps. Et ces voleurs ont voulu peut-être brusquer encore la population.
Qu'est-ce qui a pu être trouvé dans les maisons des suspects?
Voilà, les maisons des suspects, on a trouvé dans une maison normale, vous trouvez les histoires telles que beaucoup de matelas. Il y a eu aussi certains effets militaires. Quelqu'un avec des bérets militaires, avec une tenue militaire. Et ces gens étaient arrêtés, ils sont pour le moment à la brigade. Aucune arme. Il vient encore de prouver encore une fois qu'ils utilisent la nuit les armes. Mais les enquêtes continuent avec le droit militaire.
Actualité, Afrique monte.
Nous sommes au Liban. 4 millions de personnes sur 6,5 millions d'habitants sont confrontés à un risque de grave pénurie d'eau dans ce pays, alerte la directrice de l'UNICEF. L'eau et son assainissement, les réseaux électriques et les soins de santé sont mis sous pression, a ajouté le responsable de l'agence onusienne. Plus grave encore, les hôpitaux et les centres de santé n'ont pas accès à l'eau potable en raison des pénuries d'électricité, ce qui met des vies en danger. Si 4 millions de personnes seront obligées de recourir à des sources d'eau dangereuses et coûteuses, la santé publique et l'hygiène seront compromises, avertit encore Henrietta Fort. Par conséquent, une recrudescence des maladies hydriques, en plus d'une hausse des cas de COVID-19, sont redoutées. Plus d'une semaine après le séisme qui a frappé la péninsule sud d'Haïti, la situation des survivants devient de plus en plus précaire. Si l'aide internationale commence petit à petit à arriver dans les villes, les zones rurales plus reculées sont encore livrées à elles-mêmes.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le général de brigade Hassan Bey. Il est le chef adjoint de la police des Nations Unies, UNPOL, en RDC. Il nous parle de l'objet de sa mission dans la région de Beni, mais aussi de l'appui que UNPOL apporte à la police nationale congolaise. Le chef adjoint de UNPOL en RDC s'entretient avec André Kitenge.
Général de brigade Hassan Bey, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bon général, vous êtes dans la région de Beni depuis le week-end passé. Peut-on connaître en premier lieu l'objet de votre mission ici?
Merci. En fait, pour parler de l'objet de la mission, je peux dire que nous avons voulu, au niveau de UNPOL, voulu faire d'une pierre deux coups. Donc, l'objet essentiel, principal de mon séjour ici dans la région, c'est de faire une évaluation de la dimension policière de l'engagement conjoint de la MONUSCO et du gouvernement de la République démocratique du Congo. Un engagement qui se traduit aujourd'hui par une contribution assez significative de la force à l'action des forces armées de la République démocratique du Congo contre les groupes armés, comme cela se passe actuellement dans les opérations conjointes qui sont menées dans la région. Et le deuxième point, c'est bien entendu voir le dispositif UNPOL, voir comment collaborent nos personnels avec le collègue de la police nationale congolaise.
Mon général, vous vous êtes même rendu à Butembo. Que peut-on retenir de cette visite?
Oui, c'est une visite quand même qui a été riche en enseignements. Donc, elle nous a permis de voir que la police nationale congolaise avait une bonne connaissance et une belle prise en compte des problématiques sécuritaires dans sa zone d'action. Et nous avons aussi vu la grande motivation de cette police nationale congolaise à servir ses populations exclusivement. Et ce, nonobstant toutes les difficultés de fonctionnement et la modicité des moyens dont elle dispose. Et nous avons pu remarquer qu'il y a une excellente collaboration avec la MONUSCO et particulièrement la police de la mission, donc UNPOL, qui partage avec la PNC au quotidien des savoir-faire, des savoir-être. Et en plus d'un soutien constant sur certains aspects du travail de cette même police. Et nous sommes venus, nous avons vu et nous continuerons à faire du plaidoyer auprès des autorités nationales et des partenaires de la MONUSCO sur l'importance et le rôle particulier de la police nationale congolaise dans la situation actuelle.
Vous l'avez dit, la police MONUSCO travaille beaucoup avec la police nationale congolaise à travers un appui multiforme, mentorat, formation, appui logistique et autres. Mais quel est l'appui spécial que vous lui apportez durant cette période sous état de siège où la ville de Beni fait tout de même face à un regain d'insécurité?
Merci, mais vous savez, l'appui de la police de la MONUSCO à la police nationale congolaise est permanent. Dans ce cadre, donc, il me plaît encore d'indiquer ici que nous avons essayé, expérimenté, et ça marche très bien. Les SOLI sont les stratégies opérationnelles de lutte contre l'insécurité. Vous en avez une à Beni, vous en avez une à Butembo, vous en avez une à Oicha, donc, en plus des autres. Hein. Donc, et ces SOLI prennent particulièrement en compte la dimension de police de proximité. Et vous savez, dans ce cadre toujours, hein, la collaboration continue et nous nous appuyons encore sur cette collaboration, cette volonté renouvelée d'augmenter sans cesse les capacités de la police nationale congolaise, donc pour faire une analyse des dynamiques nouvelles d'insécurité et renforcer encore les capacités, mais surtout les capacités d'investigation. Capacités d'investigation parce qu'il y a des éléments nouveaux, les explosions c'est nouveau, il faut Donc, c'est ouvrir un nouveau domaine qu'il faut rapidement maîtriser pour que les populations vivent encore dans le calme et la quiétude.
Vous arrivez à un moment où des opérations militaires détraquent des rebelles IDF sont en cours. Il s'agit des opérations conjointes FARDC et MONUSCO, comme vous le savez. Quelle pourrait être la contribution de la police des Nations Unies, UNPOL, dans le cadre de la protection des civils?
Vous savez, tout le travail que UNPOL entreprend au niveau de la police nationale, avec la police nationale congolaise, entre dans le cadre de la protection des civils. Surtout dans le cadre des missions de sécurisation des zones urbaines et des agglomérations. En plus, nous avons prévu d'appuyer la PNC dans les tâches spécifiques qui lui sont assignées, notamment dans la protection des populations, dans le cadre de la circulation et la liberté d'aller et de venir, donc la circulation des personnes et des biens. Donc, nous avons aussi prévu de mener des actions futures avec notamment l'installation durable de la police dans les zones actuellement reprises par les armées.
Général de brigade Hassan Bey, Radio Okapi vous remercie.
Merci.
Notre invité répondait aux questions d'André Kitenge. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Ben Kabamba. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.radiokapi.net.